Chers auditeurs, bonjour. La Libre Pensée reçoit aujourd'hui le professeur Pierre Joinet, membre de l'Académie nationale de médecine, ancien responsable des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, les SECOS, spécialiste de la médecine de la reproduction. Nous souhaitons recueillir son avis sur quelques aspects du projet de loi de bioéthique actuellement en cours d'examen au Parlement. Pierre Joinet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous d'abord nous livrer votre point de vue sur le texte dans son ensemble ?
Oui, bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. Donc, effectivement, il y a un projet de loi relatif à la bioéthique qui est en cours d'examen. Et il faut savoir que c'est le quatrième projet de loi depuis 1994. Et que cette loi elle a pour objectif d'encadrer des activités médicales, la recherche biomédicale. Donc, elle concerne beaucoup de thèmes différents. C'est peut-être une des difficultés de la loi de traiter de questions très, très différentes les unes des autres, comme la PMA, les transplantations d'organes, la génétique, les neurosciences. Et de pouvoir discuter tout ça dans un même texte, c'est très compliqué. Mais surtout, ce qui est remarquable dans le projet de loi actuel, c'est qu'il marque une évolution qui était déjà présente dans les projets de loi antérieurs, qui était une évolution vers une conception de plus en plus administrative de l'éthique. C'est-à-dire que les activités, qu'il s'agisse de soins ou de recherche, sont de plus encadrées par des règlements de plus en plus précis, je dirais parfois pointilleux, pas toujours adéquats, et comme conséquence de déresponsabiliser les acteurs concernés, qu'il s'agisse des professionnels, des médecins, des chercheurs, mais aussi des patients qui font ces actes. Et pour moi, ça reflète un manque de confiance à l'égard des personnes et je trouve ça regrettable.
Pierre Joinet, pouvez-vous maintenant nous préciser l'appréciation que vous portez sur l'extension à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée ? Et comme le temps nous est un peu compté, pouvez-vous nous indiquer au surplus le regard que vous posez, d'une part, sur le droit à la levée de l'anonymat des donneurs de sperme ou d'ovocytes, qui serait reconnu à toute personne majeure née d'une procréation avec donneur, qui en ferait la demande à l'âge de 18 ans, d'autre part, sur la filiation d'intention résultant d'une reconnaissance préalable devant notaire de l'enfant à naître par les femmes homosexuelles ou seules qui recourraient à cette technique médicale.
L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, dont d'ailleurs on parle beaucoup, est l'aspect le plus positif du projet de loi. Mais il était inéluctable. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on en discute encore l'opportunité, dans la mesure où les femmes concernées, qu'il s'agisse des femmes homosexuelles ou des femmes seules, de toute façon, quand elles souhaitent devenir mères, elles le font. Et le problème, c'est qu'elles le font dans de mauvaises conditions, soit à l'étranger, soit en France. Et donc, la loi ne fait que reconnaître ce droit qu'elles puissent avoir de pouvoir devenir mères dans de bonnes conditions, et avec une assistance médicale quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est le côté positif et mais presque obligatoire de la loi. En ce qui concerne l'anonymat du don de sperme et d'ovocytes, je pense que sa suppression est inévitable, car aujourd'hui, les personnes conçues par don ont tous les moyens, par des tests génétiques, de pouvoir identifier leur donneur. Donc oui, que l'anonymat soit supprimé, ça ne m'étonne pas. Maintenant, ce que je regrette, c'est que le dispositif qui est prévu dans le projet de loi sur la manière dont les choses vont être gérées une fois que l'anonymat est levé, ce dispositif est assez incompréhensible. Et je crois qu'ici aussi, il faudrait faire plus confiance aux acteurs concernés, qu'il s'agisse des parents, des enfants, des donneurs, pour qu'ils puissent, eux, trouver les meilleurs moyens de procéder pour gérer cette situation d'information des jeunes et des parents sur les donneurs en fonction des circonstances. Maintenant, sur les questions de filiation, je dirais qu'en tant que médecin, je n'ai pas d'avis à formuler, car ce n'est pas une question d'ordre médical. Je reprendrai ce qu'en pensent les personnes concernées là aussi. En l'occurrence, l'association des parents gays et lesbiens qui revendique un accès pour ces familles au droit commun d'affiliation. Et la PGL dit qu'il faudrait permettre à ces femmes d'entrer dans le droit commun en élargissant les mesures existantes qui ont fait la preuve de leur validité pour les couples hétérosexuels en PMA. Notamment l'engagement irrévocable dans la procédure de PMA, puis l'établissement de la filiation pour la mère qui accouche et bénéficie d'une présomption de comaternité, possibilité de reconnaissance en mairie pour l'établissement de la filiation de sa compagne à l'égard de l'enfant. Je trouve que cette demande de la PGL est tout à fait raisonnable et que, en l'occurrence, le mieux que pourrait faire le projet de loi, c'est de faire rentrer ces nouvelles filiations dans le droit commun habituel.
Pierre Jeunet, s'agissant de la levée de l'anonymat, ne craignez-vous pas qu'il entraîne une chute des dons d'ovocytes et de sperme, surtout de sperme, alors que la demande va augmenter compte tenu de l'extension de la PMA à toutes les femmes?
Oui, c'est pas impossible. Les donneurs et les donneuses aujourd'hui expriment des réticences pour pouvoir poursuivre à donner si l'anonymat est levé. Mais je dirais que la question du recrutement, la sensibilisation des personnes et le recrutement des personnes qui pourraient être volontaires pour le don dépend des moyens que l'on met pour pouvoir les sensibiliser justement et leur expliquer de quoi il s'agit et leur permettre de donner. Je crois que c'est un peu le même problème pour les autres types de dons, les dons d'organes, le don du sang. Imaginez ce qui se passerait si on ne faisait aucune campagne d'information pour le don du sang, si on ne mettait pas les moyens pour accueillir, pour accompagner les donneurs quand ils se présentent. Ben, il faudrait qu'il y ait une même volonté de politique, d'action pour le recrutement des donneurs. Et je crois que même si l'anonymat est élevé, il ne doit pas y avoir beaucoup de difficultés pour trouver les donneurs et les donneuses nécessaires.
Merci, Pierre Jeunet. Deuxième sujet qui nous préoccupe à la Libre Pensée, c'est celui de la recherche sur l'embryon. Le cadre juridique particulièrement strict qui enserre donc cette recherche demeure pour l'essentiel celui en vigueur depuis 2013. Il connaît néanmoins une évolution inquiétante à nos yeux, puisque les chercheurs devront respecter les termes des articles 16 à 16-8 du Code civil s'appliquant aux personnes nées et non aux embryons. Dites-nous si nos inquiétudes sont fondées à vos yeux ou relèvent du soupçon dépourvu de fondement.
Alors, cette introduction de la référence aux articles 16 à 16-8 du Code civil pour les protocoles de recherche sur l'embryon, puisque maintenant les chercheurs qui veulent faire une recherche devront s'assurer qu'ils respectent les dispositions de cet article. Mais aussi les chercheurs, enfin les centres qui conservent les embryons, les cellules souches embryonnaires pour la recherche, qui font pas forcément la recherche eux-mêmes, mais qui conservent le matériel qui va être utilisé pour la recherche. Tout cela doit respecter, d'après le projet de loi, les dispositions des articles 16 à 16 du Code civil. Ça n'existait pas auparavant dans la loi, et vraiment, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a introduit cette référence. Car de quoi parlent ces articles 16 à 16 du Code civil? Ce sont en fait les articles qui gouvernent l'ensemble de toutes les recherches biomédicales faites sur les personnes, comme vous le disiez. Ces articles du Code civil disent que la loi assure la primauté de la personne. Ils disent que chacun a droit au respect de son corps. Ils disent que le corps humain est inviolable. Ils parlent d'intégrité du corps humain. Et donc, introduire toute cette notion qui concerne les recherches faites chez des personnes adultes ou enfants pour un embryon de quelques jours qui est un amas de cellules, c'est très étrange. Et on peut vraiment se demander pourquoi on a introduit ces dispositions. Et surtout, c'est inquiétant parce que quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des autorisations de recherche sont délivrées par l'Agence de la biomédecine, sont contestées devant les tribunaux par des associations ou des sociétés qui sont contre la recherche de l'embryon, on peut penser que ces articles vont leur être très utiles pour pouvoir contester les autorisations de recherche et obtenir l'annulation des autorisations qui sont données pour la recherche. Donc, cette introduction de ces articles, enfin, cette référence aux articles 16 et 18, pose vraiment beaucoup de questions.
La libre pensée, vous le savez, est favorable à la mise en place d'un simple système de déclaration avec un avis du Conseil d'orientation de la biomédecine. Qu'en pensez-vous ?
La loi devrait fixer les grands principes à respecter. Ensuite, dans la mise en œuvre de la loi, il faudrait bien sûr que ce soit encadré, mais il faudrait aussi faire plus confiance dans les acteurs concernés, comme je le disais au début, les médecins, les chercheurs. Et si jamais ils dérapaient, d'ailleurs, ben, il faudrait sûrement les sanctionner, mais pas le faire a priori, essayer de leur laisser la liberté de pouvoir développer leur recherche dans des conditions d'éthique reconnues par la société. Alors, dans ce contexte, que ces recherches soient soumises à déclaration et pas à autorisation, alors ça, c'est un côté positif de la loi, c'est que maintenant, ça va être possible pour les cellules souches embryonnaires, ce qui n'était pas le cas avant. Pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, une simple déclaration serait suffisante. Pour l'embryon, c'est un problème. En fait, la loi ne traite pas bien le sujet, parce que elle ne fait pas la distinction entre deux types de recherches qui sont, d'un côté, des recherches qui sont faites sur des embryons obtenus par fécondation in vitro et qui sont susceptibles d'être transférés dans l'utérus pour pouvoir se développer et donner naissance à une personne. Donc ça, c'est une recherche qui est assimilable à une recherche clinique faite à d'autres âges de la vie sur les personnes. Et donc là, il faut des dispositions de surveillance particulières. Les autres recherches qui sont faites sur des embryons qui ne peuvent jamais être transférés dans l'utérus, ils n'ont jamais donné naissance à une personne. Et qui donc, c'est vrai, pourraient obéir à des encadrements réglementaires différents et qui pourraient être l'objet d'une simple déclaration. Je suis d'accord avec ça.
Pierre Joinet, dans le peu de temps qui nous reste, estimez-vous que le législateur a laissé dans l'ombre des sujets importants dans ce projet de loi ? Enfin, le gouvernement pour qu'il présente son projet au Parlement.
Oui, on peut toujours penser qu'il y a d'autres questions qui auraient pu être traitées. Alors, il y a notamment toutes les questions relatives à la fin de vie. Mais je trouve normal que ce ne soit pas dans ce projet de loi parce que c'est un sujet très différent. Maintenant, les questions demeurent et les débats qu'il y a eu avant la déposition du projet de loi l'année dernière montrent que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Donc, c'est sûrement un sujet sur lequel il faudrait revenir, mais peut-être dans d'autres circonstances. Alors sinon, pour rester dans le cadre des thèmes correspondant au projet de loi actuel, je dirais qu'il y a un type de recherche de pratique médicale qui n'est pas du tout traité dans la loi et qui, à mon avis, mériterait au minimum une réflexion et un débat parlementaire. C'est tout ce qui est autour de la gestation pour autrui et la transplantation d'utérus. C'est étonnant d'ailleurs que la transplantation d'utérus ne soit pas du tout traitée dans ce projet de loi. Et il y a un lien entre les deux parce que ce sont les mêmes femmes qui sont pas victimes, mais qui ont une stérilité utérine, qui ne peuvent pas devenir mères parce qu'elles n'ont pas d'utérus, qui peuvent soit recourir à une transplantation d'utérus, soit recourir à une gestation pour autrui.
Merci.
Ce sont des sujets complexes, mais qui mériteraient vraiment d'être discutés. Et puis il y en a d'autres. Je pense notamment un sujet qui est en train d'émerger dans toutes les réflexions dans d'autres pays sur le plan scientifique, qui sont les recherches qui consistent à créer ce qu'on appelle des organoïdes, c'est-à-dire des structures tridimensionnelles qui reproduisent des organes. On peut maintenant, avec une nouvelle technique de culture, avec le progrès des recherches faites sur les cellules souches, reconstituer des structures ressemblant à des organes, intestinaux, pulmonaires ou autres, et aussi ce qu'on appelle des cérébroïdes, c'est-à-dire des mini-cerveaux. qui sont capables d'une certaine fonctionnalité in vitro. Hein, quand autour de ce thème-là, de ces recherches en neurosciences, il y a beaucoup de questions à discuter et ce n'est pas du tout abordé dans la loi et c'est dommage.
Merci Pierre Joinet. Est-ce que vous pourriez indiquer à nos auditeurs le petit ouvrage que vous avez commis sur ces questions-là récemment? Puisque je n'ai pas le titre en tête.
Non, c'est effectivement à la main de l'INSERM, l'année dernière, avec des collègues, Bernard Becci, qui était un philosophe, et Jean-François Guérin, on a rédigé un ouvrage, mais sur un aspect particulier, qui est la recherche sur l'embryon. Et donc, c'est un ouvrage qui s'appelle recherche sur l'embryon, une dérive ou nécessité pour l'interrogation. Voilà, c'est toute à la fois une description de toutes les questions posées, à la fois sur le plan philosophique, sur le plan juridique, sur le plan éthique, sur le plan médical, sur le plan scientifique, de la recherche sur l'embryon, et des réflexions sur ces sujets, et parfois aussi des propositions sur ce qui pourrait être fait pour que cette recherche puisse être menée dans de meilleures conditions, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan éthique.
Merci Pierre Joinet. Merci également à Pierre Monteuil pour la prise de son et Romain Masson pour la réalisation de cette émission. Chers auditeurs, nous vous retrouverons le mois prochain.